Chapitre 22. Saint Antoine, usurpateur. Maintenant, et après ce que nous venons de dire de la popularité de Saint Janvier, croirait-on une chose? C'est que, comme une puissance terrestre, comme un simple roi de chair et d'eau, comme un Stuart ou comme un Bourbon, un jour vint où Saint Janvier fut détrôné. Il est juste d'ajouter que c'était en 99, époque du détrônement général sur la terre comme au ciel. Il est vrai de dire que c'était pendant cette période étrange où Dieu lui-même, chassé de son paradis, eut besoin pour reparaître en France, sous le nom de l'être suprême, d'un laissez-passer de la Convention nationale signée par Maximilien Robespierre. Ceux qui douteront de la chose pourront, en passant dans le faubourg du Roule, jeter les yeux sur le fronton de l'église Saint-Philippe. Ils y liront encore cette inscription, mal effacée. Le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Or, comme nous le disions, ce fut en 1799, dans le 16e siècle du patronat de Saint-Janvier, messieurs Barras, Riobel, Goyer et autres régnant en France sous le nom de directeur que la chose arriva. Voici à quelle occasion. Le 23 janvier 1799, après une défense de 3 jours, pendant lesquels les Lazzaroni, armés de pierres et de bâtons seulement, avaient tenu tête aux meilleures troupes de la République, Naples s'était rendu à Championnet. Et grâce à un discours que le général en chef avait fait aux Napolitains dans leur propre langue, et par lequel il leur avait prouvé que tout ce qui s'était passé était un malentendu, l'armée républicaine avait fait son entrée dans la ville, criant « Vive Saint-Janvier !» tandis que de leur côté les Lazzaroni criaient « Vive les Français !» Pendant la nuit, on enterra 4000 morts, victimes de ce malentendu, et tout fut dit. Cependant, comme on le pense bien, cette entrée, toute fraternelle qu'elle était, avait amené un changement notable dans les affaires du gouvernement. Le parti républicain l'emportait, il se mit donc à établir une république, laquelle prit le nom de République parthénopéenne. Le jour où elle fut proclamée, il y eut un grand banquet que le général Championnet donna aux membres du nouveau gouvernement, dans l'ancien palais du roi, devenu palais national. Ce banquet réjouit beaucoup les Lazzaroni, qui virent dîner leurs représentants et qui s'assurèrent que les libéraux n'étaient point dans les anthropophages, comme on le leur avait dit. Le lendemain, le général Championnet, suivi de tout son état-major, se transporta en grande pompe dans la cathédrale de Sainte-Claire pour rendre grâce à Dieu du rétablissement de la paix, adorer les reliques de Saint-Janvier et implorer sa protection pour la ville de Naples, malgré son changement de gouvernement. Cette cérémonie, à laquelle assista autant de peuple que l'église put en contenir, fut fort agréable aux Lazzaroni, qui reconnurent, vu le silence du saint et le recueillement du général et de son état-major, que les Français n'étaient point des hérétiques, comme on le leur avait assuré. Le surlendemain, on planta des arbres de la liberté sur toutes les places de Naples, au son de la musique militaire française et de la musique civile napolitaine. Cet essai d'horticulture championnienne mit le comble à l'enthousiasme des Lazzaroni, qui aiment la musique et adorent l'ombre. Alors commencèrent ce que l'on appelle les réformes. Ce fut la pierre d'achoppement de la Nouvelle République. On abolit les droits sur le vin, et le peuple laissa faire sans rien dire. On abolit les droits sur le tabac, et le peuple toléra encore cette abolition. On abolit le droit sur le sel, et le peuple commença à murmurer. On abolit les droits sur le poisson, et le peuple cria plus fort. Enfin, on abolit le titre d'excellence, et le peuple se fâcha tout à fait. Bon et excellent peuple, qui regardait chaque abolition d'impôt comme un outrage fait à ses droits, et qui pourtant ne se révolta réellement que lorsqu'on abolit le titre d'excellence, qui cependant, comme il le disait lui-même, n'avait rien fait au nouveau gouvernement. Malheureusement, le nouveau gouvernement ne tint aucun compte des réclamations des Lazzaroni et continua ses réformes, fier et fort qu'il était de l'appui de l'armée française. Mais cet appui, comme on le comprend bien, révéla aux Napolitains qu'il y avait connivence entre l'armée française et le gouvernement, qui les opprimait en leur enlevant les uns après les autres leurs impôts, les plus anciens et les plus sacrés. Dès lors, les Français, d'abord combattus comme des hérétiques, puis accueillis comme des libérateurs, puis fêtés comme des frères, furent regardés comme des ennemis. et le bruit commença à se répandre du château de l'œuf à Capodimonte et du pont de Magdalène à la grotte de Pouzols que Saint Janvier, pour punir la ville de Naples de la confiance qu'elle avait, elle, en eux, ne ferait point son miracle le premier dimanche du mois de mai, comme c'est son habitude de le faire depuis 14 siècles au jour sus indiqué. Cette désastreuse nouvelle fit grande sensation. Chacun, en s'abordant, se demandait « Avez-vous entendu dire que Saint Janvier ne fera pas son miracle cette année ?» On se répondait « Je l'ai entendu dire. » Et les interlocuteurs, regardant le ciel en soupirant, secouaient la tête et se quittaient en murmurant « C'est la faute de ces gueux de Français. » Bientôt, on commença, aux heures de l'appel, à remarquer des absences dans les rangs. Le rapport en fut fait au général Championnet, qui ne douta point un seul instant que les absences eussent été jetées à la mer. Quelques jours avant celui où le miracle devait avoir lieu, on trouva 3 soldats inanimés, un dans la rue Porta Capoane, le second dans la rue Saint-Joseph, le troisième sur la place du Marché Neuf. Un d'eux avait encore dans la poitrine le couteau qui l'avait tué, et au manche du couteau était attachée cette inscription. Meurent ainsi tous ces hérétiques de Français qui sont cause que Saint Janvier ne fera pas son miracle. Le général Championnet vit alors qu'il était fort important pour son salut et pour le salut de l'armée que le miracle se fît. Il décida donc que d'une façon ou de l'autre le miracle se ferait. À mesure que le premier dimanche de mai approchait, les démonstrations devenaient plus hostiles et les menaces plus ouvertes. La veille du grand jour arriva. La procession eut lieu comme d'habitude. Seulement, au lieu de défiler entre 2 lignes de soldats napolitains, elle défila entre une haie de grenadiers français et une haie de troupes indigènes. Toute la nuit, les patrouilles furent faites, moitié par les soldats de la République parthénopéenne et moitié par les soldats de la République française. Il y avait, pour les deux nations, un même mot d'ordre franco-italien. La nuit, quelques cloches isolées sonnèrent, mais au lieu de ce joyeux carillon qui leur est habituel, elles ne jetèrent dans l'air que de lugubres volées. Ces tintements rappelèrent au général Championnet celui des vêpres siciliennes, et il promit de ne pas se laisser surprendre comme l'avait fait Charles d'Anjou. Le matin, chacun s'avança vers l'église de Sainte-Claire, morne et silencieux. C'était un trop grand contraste avec le caractère napolitain pour qu'il ne fût pas remarqué. Le général, à l'exception des hommes de service, consigna les soldats dans les casernes, en leur donnant l'ordre de se tenir prêts à marcher au premier appel. La journée s'écoula sous un aspect sombre et menaçant. Cependant, comme le miracle ne s'accomplit d'ordinaire que de 3 à 6 heures du soir, jusque-là il n'y eut encore trop rien à dire. Mais cette heure arrivée, les vociférations commencèrent. Seulement cette fois, au lieu de s'adresser aux saints, c'étaient les Français qu'elles attaquaient. Comme le général assistait à la cérémonie avec son état-major et qu'il entendait parfaitement le patois napolitain, il ne perdit pas un mot de toutes les menaces qui lui étaient faites. À 6 heures, les vociférations se changèrent en hurlements. Les bras commencèrent à sortir des manteaux et des couteaux à sortir des poches. Bras et couteaux se dirigeaient vers le général et vers son état-major, qui demeurait aussi impassible que s'ils n'eussent rien compris, ou que si la chose ne les eût point regardés. À 8 heures, c'était du réjouissement à ne plus s'entendre. Ceux de la rue répondaient à ceux de l'église. Les grenadiers regardaient le général pour savoir si eux aussi ne tireraient pas les baïonnettes. Le général était impassible. À 8h30, comme le tumulte redoublait, le général se pencha sur un aide-de-camp et lui fit quelques mots à l'oreille. L'aide-de-camp descendit de l'échafaudage, traversa la double haie de soldats français et napolitains qui conduisaient au chœur, se mêla à la foule des fidèles qui se pressaient pour aller baiser la fiole, arriva jusqu'à la balustrade, se mit à genoux et attendit son tour. Au bout de 5 minutes, le chanoine prit sur l'autel la fiole renfermant le sang parfaitement coagulé, ce qui était, vu l'heure avancée, une grande preuve de la colère de Saint Janvier contre les Français. La leva en l'air pour que personne ne doutât de l'état dans lequel elle était. Puis il commença à la faire baiser à la ronde. Lorsqu'il arriva devant l'aide-de-camp, celui-ci, tout en baisant la fiole, lui prit la main. Le chanoine fit un mouvement. « Un mot, mon père, » dit le jeune officier. « Que me voulez-vous » demanda le prêtre. Je veux vous dire, de la part du général en chef, reprit l'aide de camp, que si dans 10 minutes le miracle n'est pas fait, dans un quart d'heure vous serez fusillé. Le chanoine laissa tomber la fiole, que le jeune aide de camp rattrapa, heureusement, avant qu'elle n'eût touché la terre, et qui lui rendit aussitôt avec les marques de la plus profonde dévotion. Puis il se releva et revint prendre sa place près du général. « Eh bien, dit Championnet. « Eh bien, dit l'aide de camp, soyez tranquille, général. Dans 10 minutes, le miracle sera fait. » L'aide de camp avait dit la vérité. Seulement, il s'était trompé de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, le chanoine leva la fiole en criant « Il miracolo est fat !» Le sang était en pleine liquéfaction. Mais au lieu de cris de joie et de transports d'allégresse qui accueillaient ordinairement cette heure solennelle, toute cette foule, déçue dans son désespoir, s'écroula dans un morne silence. La promesse faite au nom de Saint-Janvier n'avait pas été tenue. Malgré la promesse des Français, le miracle s'était accompli. Saint-Janvier ne les regardait donc pas comme des ennemis. C'était à n'y plus rien comprendre. Et comme ni le chanoine, ni le général ne révélèrent pour le moment la petite conversation qu'ils avaient eue ensemble par l'organe du jeune aide-de-camp, personne en effet n'y comprit rien. Il en résulta que de mauvais soupçons planèrent sur Saint-Janvier. On l'accusa tout bas de s'être laissé séduire par de belles paroles et de tourner tout doucement au républicanisme. Ce bruit fut la première atteinte portée au pouvoir spirituel et temporel de Saint-Janvier. Nous avons dit ailleurs comment les choses suivirent un autre cours que celui auquel on s'attendait. Les Français, battus dans l'Italie occidentale, rappelèrent les troupes qui occupaient Naples. Le général Macdonald, qui avait remplacé le général Championnet, évacua la capitale, laissant la République parthénopéenne à elle-même. 3 mois après, la pauvre République n'existait plus. Il y eut alors une réaction terrible contre tout ce qui avait subi l'influence du parti français. Nous avons raconté les supplices de Caracciolo, d'Hector Carafa, de Cirillo et d'Eleonore Pimental. Pendant 2 mois, Naples fut une vaste boucherie. Que ceux qui en ont le courage ouvrent Coletta et fassent avec lui le tour de cet effroyable charnier. Cependant, lorsque les Lazzaroni eurent tout tué ou tout proscrit, force leur fut de s'arrêter. On regarda alors de tous côtés pour voir si l'on n'avait oublié personne, avant de déraciner les potences, de démonter les échafauds et d'éteindre les bûchers. Tout était muet et désert comme une tombe. Il n'y avait que des bourreaux sur les places, des spectateurs aux fenêtres, mais plus de victimes. Quelqu'un pensa alors à Saint-Janvier, lequel avait fait son miracle d'une façon antinationale et surtout si inattendue. Mais Saint-Janvier n'était pas une de ces puissances d'un jour, à laquelle on s'attaque sans s'inquiéter de ce qu'il en résultera. Saint-Janvier avait vu passer les Grecs, les Goths, les Sarrasins, les Normands, les Souabes, les Angevins, les Espagnols, les vice-rois et les rois. Et Saint-Janvier était toujours debout. De sorte que ce fut tout bas, et presque en tremblant, que le premier qui accusa Saint-Janvier formula son accusation. Mais justement à cause de cette longue popularité, Saint-Janvier avait au fond beaucoup plus d'ennemis qu'on ne lui en connaissait. Si bienveillant, si puissant, si attentif qu'il fût, il lui avait été impossible, au milieu du concert de demandes qui monte éternellement jusqu'à lui, d'entendre et d'exaucer tout le monde. Il s'était donc, sans qu'il s'en doutât lui-même, fait une foule de mécontents lesquels n'osaient rien dire, tant qu'ils se croyaient isolés, mais se rallièrent immédiatement au premier accusateur qui éleva la voix. Il en résulta que, contre son attente, celui-ci eut un succès auquel il ne s'était pas attendu. Du moment qu'on n'avait pas mis l'accusateur en pièces, on l'éleva sur un pavois. Aussitôt, chacun fit chorus. Et il n'y eut pas jusqu'au plus petit Lazzarone qui ne formula sa petite accusation. Saint-Janvier, d'abord soupçonné d'indifférence, fut bientôt taxé de trahison. On l'appela libéral, on l'appela révolutionnaire, on l'appela jacobin. On courut à la chapelle du Trésor, qu'on pilla préalablement. Puis on prit la statue du saint, on lui attacha une corde au cou, on le traîna sur le môle et on le jeta à la mer. Quelques voix s'élevèrent bien parmi les pêcheurs contre cette exécution qui sentait son 2 septembre d'une lieue. Mais ces voix furent aussitôt couvertes par les vociférations de la populace qui criait « À bas Saint-Janvier ! Saint-Janvier à la mer !» Saint Janvier subit donc une seconde fois le martyre et fut jeté dans les flots. Il est vrai que cette fois il était exécuté en effigie, mais Saint Janvier ne fut pas plus tôt à la mer que la ville de Naples se trouva sans patron, et que, habituée comme elle était à une protection miraculeuse, elle sentit de la façon la plus déplorable l'isolement dans lequel elle se trouvait. Son premier mouvement, un mouvement naturel, fut de recourir à l'un de ses 75 patrons secondaires et de lui transmettre la survivance de Saint Janvier. Malheureusement, ce n'était pas chose facile à faire. Les saints supérieurs étaient occupés ailleurs. Saint Pierre avait Rome, Saint Paul avait Londres, Saint François avait Assise, Saint Charles Borromée à Rome. Chacun, enfin, avait sa ville toujours protégée comme Saint Janvier avait protégé Naples. Et il n'y avait pas lieu d'espérer que, quelque espérance d'avancement que lui donna cette nouvelle nomination, il abandonna son peuple pour un peuple nouveau. D'un autre côté, en partageant son patronage, il y avait à craindre que le saint n'eût plus de besogne qu'il n'en pouvait faire, et n'étreignit mal pour trop embarrasser. Restaient, il est vrai, les saintes, qui, grâce à l'établissement presque général de la loi salique, ont plus de temps à elles que les saints. Mais c'était un pauvre successeur à donner à Saint Janvier qu'une femme, et les Napolitains étaient trop fiers pour laisser aussi tomber le patronage de leur ville en quenouille. Pendant ce temps, toutes sortes de brigues sourdissaient. Chacun présentait son saint, exagérait ses mérites, doublait ses qualités, s'engageait pour lui et en son nom, répondait de sa bonne volonté. Il n'y eut pas jusqu'à Saint Gaétan qui n'eût ses preneurs, mais on comprend que c'était un mauvais antécédent pour le saint que de s'être laissé voler lui-même et de n'avoir pas su se retrouver. Aussi Saint Gaétan n'eut-il pas un instant de chance et ne fut-il nommé que pour mémoire. On résolut de faire un conclave où les mérites des prétendants seraient examinés et d'où sortirait le plus digne. Les noms des 75 saints furent proclamés. Après chaque proclamation, chacun eut la liberté de se lever et de dire en faveur du dernier nommé tout ce que bon lui semblerait. La liberté entière du vote fut accordée et, pour que ces votes fussent essentiellement libres, on décréta que le scrutin serait secret. Au troisième tour de scrutin, Saint Antoine fut élu. Ce qui avait surtout plaidé en faveur de Saint Antoine, c'est qu'il est patron du feu. Or, Naples étant incessamment menacée, comme Sodome et Gomorre, de périr de combustion instantanée, voyait une certaine sécurité dans le choix d'un patron qui tenait particulièrement sous sa dépendance l'élément mortel et redouté. Mais Naples n'avait pas songé à une chose, c'est qu'il y a feu et feu, comme il y a fagot et fagot. Saint Antoine était le patron du feu causé par accident, par inadvertance, par maladresse. Il était souverain contre tout incendie ayant pour principe une cause humaine. Mais Saint Antoine ne pouvait rien contre le feu du ciel, ni contre le feu de la terre. Saint Antoine était impuissant contre la foudre et contre la lave, contre les orages et contre les volcans. À part le soin avec lequel il s'était gardé jusque-là, Saint Antoine n'était donc pas pour Naples un patron de beaucoup supérieur à Saint Gaétan. Saint Antoine n'en fut pas moins proclamé patron de Naples au milieu de l'allégresse générale. Il y eut des danses, des fêtes, des joutes sur l'eau, des distributions gratis, des spectacles en plein air et des feux d'artifice, de sorte que Saint Antoine se crut aussi solide à son poste que l'avaient été successivement les 23 empereurs romains successeurs de Charlemagne ou les 257 papes successeurs de Saint Pierre. Saint Antoine comptait sans le Vésuve. 6 mois s'écoulèrent sans qu'aucun événement vînt porter atteinte à la popularité du nouveau patron. 2 ou 3 incendies avaient même eu lieu dans la ville, qui avait été miraculeusement réprimée par la seule présence de la chasse du saint. De sorte que non seulement on commençait d'oublier Saint Janvier, mais qu'il y avait même des courtisans du pouvoir qui proposaient de jeter bas la statue de l'ex-patron de Naples, que, par oubli sans doute, on avait laissé debout à la tête du Ponte della Maddalena. Heureusement, l'exaspération était calmée, et cette proposition de vengeance rétroactive n'eut aucun résultat. Tout semblait donc marcher pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, lorsqu'un beau matin, on s'aperçut que la fumée du Vésuve s'épaississait sensiblement, et montait au ciel avec une violence et une rapidité extraordinaires. En même temps, des bruits souterrains commencèrent à se faire entendre. Les chiens hurlèrent lamentablement, et de nombreuses troupes d'oiseaux effrayés tournoyaient en l'air, s'abattant pour un instant, puis reprenant leur vol aussitôt, comme s'ils eussent craint de se reposer sur une chose qui avait sa racine dans la terre. De son côté, la mer présentait des phénomènes particuliers tout aussi effrayants. Du bleu d'azur qui lui est habituel, sous le beau ciel de Naples, elle était passée à une couleur cendrée qui lui ôtait toute sa transparence. Et quoique calme en apparence, quoique aucun vent ne l'agitât, de grosses vagues isolées montaient, bouillonnaient et venaient crever à la surface en répandant une forte odeur de soufre. Parfois aussi, comme s'il y eût pour la mer méditerranéenne une marée pareille à celle qui agite le vieil océan. Le flot montait au-dessus de son rivage, puis tout à coup reculait, laissant la plage nue, pour revenir bientôt comme il s'était éloigné. Ces présages étaient trop connus pour qu'on doutât un seul instant de ce qu'ils annonçaient. Une éruption du Vésuve était imminente. Dans tout autre moment, Naples s'en serait soucié comme de Colin Tampon. Mais, au moment du danger, Naples se souvint qu'elle n'avait plus Saint-Janvier, qui pendant 14 siècles l'avait si bien gardé de son redoutable voisin, que le Vésuve avait eu beau jeter feu et flamme, l'insouciante fille de Parthénope n'avait pas moins continué de se mirer dans son golfe, comme si la chose ne lui regardait aucunement. En effet, la Sicile avait été bouleversée, la Calabre avait été détruite, Résina et Tordel Grec ont rebâti, l'une 7 fois et l'autre 9. C'était autant de fois fondues dans un torrent de lave, sans que jamais une seule des maisons enfermées dans l'enceinte des murailles de Naples eût été seulement ébranlée. Aussi la confiance était-elle arrivée à ce point que les Napolitains ne regardaient plus le Vésuve comme une espèce de phare à la lueur duquel ils voyaient le bouleversement du reste du monde, sans qu'eux-mêmes eussent à craindre d'être bouleversés. Mais cette fois un vague instinct de malheur leur disait qu'il n'en était plus ainsi. Avec Saint-Janvier, la sécurité avait disparu. Le pacte était rompu entre la ville et la montagne. Aussi, contre l'habitude, une certaine terreur, à la vue de ces signes menaçants, se répandit-elle dans la cité. Au lieu de se coucher au grondement de la montagne, les nobles et les bourgeois dans leurs lits, les pêcheurs dans leurs barques, les lazzaroni sur les marches de leur palais, chacun resta debout et examina avec inquiétude le travail nocturne du volcan. C'était à la fois un magnifique et terrible spectacle, car à chaque instant les présages devenaient plus certains et le danger plus imminent. En effet, de minute en minute, la fumée se déroulait plus épaisse, et de temps en temps de longs serpents de flammes, pareils à des éclairs, jaillissaient de la bouche du volcan et se dessinaient sur la spirale sombre qui semblait soutenir le poids du ciel. Enfin, vers les 2 heures du matin, une détonation terrible se fit entendre. La terre oscilla, la mer bondit, et la cime du mont, se déchirant comme une grenade trop mûre, donna passage à un fleuve de lave ardente, qui, un instant incertain de la direction qu'il devait prendre, s'arrêta écumant sur un plateau, puis, comme s'il eût été conduit par une main vengeresse, abandonna son cours accoutumé et s'avança directement vers Naples. Il n'y avait pas de temps à perdre. Une fois sa direction prise, la lame s'avance avec une lente mais impassible inflexibilité. Rien ne la détourne, rien ne la fléchit, rien ne l'arrête. Elle tarit les fleuves, elle comble les vallées, elle surmonte les collines, elle enveloppe les maisons, les coupe par leurs bases, les emporte comme des îles flottantes et les balance à sa surface jusqu'à ce qu'elles s'écroulent dans ses flots. À son approche, l'herbe se dessèche, les feuilles meurent, jaunissent et tombent. La sève des arbres s'évapore, l'écorce éclate et se soulève, le tronc fume et se plaint, la lave est à 20 pas de lui encore, que déjà elle se tord, s'embrase, s'enflamme, pareil à ces ifs qu'on prépare pour les fêtes publiques. Si bien que lorsqu'elle l'atteint, le géant foudroyé n'est déjà plus qu'une colonne de cendres qui tombe en poussière et s'évanouit comme si elle n'avait jamais existé. La lave s'avançait vers Naples. On courut à la chapelle du trésor. On en tira la statue de Saint-Antoine. 6 chanoines la prirent sur leur dos et, suivis d'une partie de la population, s'avancèrent vers l'endroit où menaçait le danger. Mais ce n'était plus là un de ces incendies sans conséquence sur lesquels saint Antoine n'avait eu qu'à souffler pour les éteindre. C'était une mer de feu qui s'avançait, ruisselant de rocher en rocher, sur une largeur de 3/4 de lieue. Les chanoines portèrent le saint le plus près de la lave qu'il leur fut possible, et là ils entonnèrent le Dii Irae, Dii Ila. Mais, malgré la présence du saint, malgré les chants des chanoines, la lave continua d'avancer. Les chanoines tinrent bon tant qu'ils purent. Aussi y eut-il un moment où l'on crut le feu vaincu. Mais ce n'était qu'une fausse joie. Saint Antoine fut contraint de reculer. De ce moment, on comprit que tout était perdu. Si le patron de Naples ne pouvait rien pour Naples, quel serait le saint assez puissant pour le sauver? Naples, la ville des délices. Naples, la maison de campagne de Rome du temps d'Auguste. Naples, la reine de la Méditerranée dans tous les temps. Naples allait être ensevelie comme Herculanum et disparaître comme Pompéi. Il lui restait encore 2 heures à vivre. Puis tout sera dit. Naples aurait vécu. La lave s'avançait toujours. Elle avait atteint d'un côté le chemin de Portici et commençait à se répandre dans la mer. Elle avait dépassé de l'autre ses bétus et commençait à se répandre dans les jardins. Le centre descendait droit sur l'église de Sainte-Marie-des-Grâces et allait atteindre le pont de la Madeleine. Tout à coup, la statue de marbre de Saint-Janvier, qui se tenait à la tête du pont, les mains jointes, détacha sa main droite de sa main gauche et, d'un geste suprême et impératif, étendit son bras de marbre vers la rivière de flammes. Aussitôt le volcan se referma, aussitôt la terre cessa de frémir, aussitôt la mer se calma. Puis la lave, après avoir fait quelques pas, sentant la source qui l'alimentait se tarir, s'arrêta tout à coup à son tour. Saint-Janvier venait de lui dire, comme autrefois Dieu à l'océan, « Tu n'iras pas plus loin ». Naples était sauvé. Sauvé par son ancien patron, par celui qu'elle avait hué, conspué, détrôné, jeté à l'eau, et qui se vengeait de toutes ses humiliations, de toutes ses insultes, de toutes ses injures, comme Jésus-Christ s'était vengé de ses bourreaux en leur pardonnant. Il ne faut pas demander si la réaction fut rapide. À l'instant même, les cris de « Vive Saint-Janvier » retentirent d'un bout à l'autre de la ville. Toutes les cloches bondirent, toutes les églises chantèrent. On courut à l'endroit où l'on avait jeté la statue de Saint-Janvier à la mer. On l'enveloppa de filets, et l'on demanda les meilleurs plongeurs pour aller reconnaître l'endroit où gisait le précieux simulacre. Mais alors un vieux pêcheur fit signe qu'on eût à le suivre. Il conduisa toute cette foule à sa cabane. Puis, y étant entré seul, il en sortit un instant après, tenant la statue du saint dans ses bras. Le même soir où elle avait été précipitée du haut du môle, il l'avait retirée de la mer et l'avait précieusement emportée chez lui. La statue fut aussitôt transportée à la cathédrale de Sainte-Claire et le lendemain réintégrée en grande pompe dans la chapelle du Trésor. Quant au pauvre Saint-Antoine, il fut dégradé de tous ses titres et honneurs et, à partir de cette heure, classé dans l'esprit des Napolitains un cran plus bas que Saint-Gaëtan. Depuis ce jour, la dévotion à Saint-Janvier, loin de subir quelque nouvelle atteinte, a toujours été en croissant. J'ai entendu, dans une église, la prière d'un Lazzarone. Il demandait à Dieu de prier Saint-Janvier de le faire gagner à la loterie.